People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
C'est la guerre contre la misère qui attaque l'univers total des hommes. En Europe, le savez-vous, 40 millions de personnes vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Dans les banlieues, dans les cités de nos grandes villes, des générations de jeunes sont laissées à l'abandon, sans espoir de logement, sans projet, sans avenir. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser?
When you're strange. 2010 est l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Dans ce cadre, un séminaire sur le thème « Citoyenneté et de l'accès à l'exercice des droits » s'est tenu vendredi 11 juin au Parc Chanot à Marseille. L'occasion de réunir de nombreux acteurs de la lutte contre la pauvreté et de les inviter à discuter ensemble. Jean Chapelet, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en Provence-Alpes-Côte d'Azur, est l'organisateur de l'événement. Il nous en présente les enjeux.
C'est un séminaire qui se situe, comme les deux autres qui seront organisés en France, en Bretagne et en Nord-Pas-de-Calais, dans le cadre de l'année européenne de la cohésion sociale, puisqu'en 2008, 2010 a été déclarée année européenne de la cohésion sociale. Alors, cette année européenne de la cohésion sociale, elle a en gros trois objectifs. D'une part, permettre de formuler des propositions pour améliorer la cohésion sociale. D'autre part, réfléchir à la façon dont on peut inscrire la lutte contre la pauvreté dans l'agenda social 2010-2020, en assortissant d'objectifs chiffrés, bien sûr. Et puis, troisièmement, faire évoluer la vue de la société sur la pauvreté et la cohésion sociale. Donc, ce séminaire participe sur la question de l'accès aux droits, aux droits fondamentaux. Ce séminaire participe par les propositions qui vont être formulées de la contribution de la France à la politique de l'Europe.
Est-ce qu'il y a une raison particulière d'avoir choisi Marseille comme ville d'accueil ?
Écoutez, les autorités nationales qui sont venues ce matin et qui ont ouvert la journée, notamment le directeur général de la cohésion sociale, Fabrice Ariès, a mis en avant deux points. Le fait qu'en matière de maintien du lien social et de lutte contre la pauvreté, la région était active, avait beaucoup d'associations, beaucoup d'intervenants qui faisaient des propositions intéressantes. Et puis la deuxième, c'est que lorsqu'ils ont consulté, on a accepté d'être volontaire. Donc je crois que ce sont les deux points qui font qu'on a retenu Marseille au plan national pour l'un des trois séminaires.
La journée a donc débuté par une intervention de Fabrice Ariès, directeur général de la cohésion sociale. Dans son discours d'ouverture, il a rappelé les raisons pour lesquelles 2010 a été décrétée année de lutte contre l'exclusion sociale. Il en a exposé les objectifs et présenté le programme. On l'écoute.
Nous sommes ici dans le cadre de l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Nous avons, pour mettre en œuvre cette année, organisé un cycle de 4 séminaires. C'est aujourd'hui le deuxième. Le premier avait été consacré au parcours d'insertion, le troisième sera consacré au partenariat et puis le dernier s'intéressera au logement social. Pourquoi cette année européenne ? Je crois crois qu'il faut, en revenir aux fondamentaux. C'est avant tout un projet qui a été initié par l'Europe et que nous avons choisi, au sein de mon ministère, donc au ministère des Affaires sociales, de relayer et de porter, parce que ça nous paraissait important. Cette année européenne, elle ne doit pas être lue comme un thème décalé au regard des attentes de nos concitoyens, comme quelque chose de désincarné, de flou. C'est une thématique qui est pertinente et qui se doit d'être concrète. Tous les experts sont d'accord pour considérer que les politiques sociales françaises, qui étaient considérées en Europe comme plutôt plus protectrices que celles des autres pays, ont protégé notre pays, ont protégé une partie de nos concitoyens et nous ont permis, donc, nous permettent aujourd'hui de sortir de la crise, de commencer à sortir de la crise en meilleure situation, en meilleur état que d'autres pays. Est-ce que cela signifie que nos politiques sociales ont atteint un niveau de maturation et de perfection abouti? Non. Ça veut dire qu'elles existent, qu'elles sont performantes et qu'elles apportent de la valeur et de l'utilité, mais que nous devons toujours accroître leur efficacité, les optimiser. Et pour cela, nous devons engager des démarches pragmatiques, d'évaluation, de discussion avec un certain nombre de nos partenaires. Concrètement, l'année européenne, pour vous tous qui êtes présents ici, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'occasion d'abord d'examiner ce que nos politiques sociales produisent, dans leur réalisation et dans leurs limites. C'est aussi l'occasion de valoriser ce que chaque association, chaque personne peut apporter en termes de solidarité, de contribution à la construction de la cohésion sociale. Et puis c'est aussi l'occasion d'initier des projets, des idées, de tester des idées, de faire de l'expérimentation, d'avancer de manière pragmatique, de faire sortir des suggestions qui nous permettront au niveau local, national et européen de faire progresser nos politiques un peu différemment.
Discuter entre partenaires, évaluer ce que les politiques sociales produisent, valoriser le travail des associations, initier des projets et tester des idées. Tels sont les objectifs de ce séminaire. Pour les mener à bien, les intervenants se sont regroupés pour discuter dans le cadre d'ateliers. Trois thèmes y étaient développés, la santé, la culture et l'inclusion financière. Stéphane Lévesque est le directeur de la Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tziganes et les gens du voyage. Il a participé à l'atelier culture. Il revient rapidement sur le contenu de cet atelier, puis nous explique les raisons de sa présence au séminaire.
Donc personnellement, j'étais sur l'atelier qui parlait des cultures et il était décliné en plusieurs temps. Comment rendre accessible la culture, comment favoriser la création. Et à travers ça, on se rend bien compte finalement que les gens du voyage étaient largement concernés par deux freins qui ont été longuement abordés ce matin, à savoir l'illettrisme et la fracture numérique. On se rend compte très souvent que sur nombre de colloques ou de séminaires en France ou à l'échelle européenne, finalement, les gens du voyage sont à l'intersection des préoccupations qui sont abordées par les intervenants sans que jamais soit prononcé leur nom. Donc on est là pour porter un petit peu des particularités des gens du voyage qui doivent être prises en compte dans le cadre du droit commun et des dispositifs mis en place.
Et quelles sont ces particularités des gens du voyage ?
La toute première des particularités qu'on met souvent en avant, c'est l'itinérance. Je crois qu'il vaut mieux parler d'habitat caravane, qui n'est pas nécessairement lié à une forme de mobilité. Et finalement, la particularité qui impacte le plus la situation de vie des personnes, c'est un statut administratif particulier d'exception, qui a été défini par la HALDE comme étant parfaitement discriminatoire. On demande depuis excessivement longtemps au gouvernement français que soient révisés les dispositifs législatifs spécifiquement pris en l'encontre des gens du voyage.
Et vous pensez qu'une journée comme celle-ci peut aider à faire bouger les choses ?
Elle peut nécessairement aider à faire bouger les choses. Alors on sait bien que le temps politique n'est pas celui du quotidien des citoyens et que malheureusement les choses mettent du temps à se mettre en place. Deux intérêts à être présent ici aujourd'hui. Le premier, c'est de pouvoir porter à connaissance les situations qui sont celles des voyageurs au quotidien et ce statut administratif particulier. Et le deuxième, c'est de pouvoir faire en sorte ou favoriser le fait que les situations des gens du voyage puissent intégrer les conclusions de cette rencontre.
Quelles sont les actions que vous menez au quotidien pour ça ?
C'est des actions à deux dimensions. La toute première dimension, c'est de répondre aux besoins et aux attentes des gens du voyage en mettant en place des actions qui favorisent l'accès aux droits fondamentaux des personnes. Les associations adhérentes de la FNASAD Gens du Voyage travaillent à l'élection de domicile, au soutien à la création et à la gestion d'entreprises individuelles sur des questions de santé, d'accès aux soins, de prévention. On est extrêmement vigilant à ce que ces actions qui viennent colmater des déficits d'intervention publique ne freinent pas la remontée des difficultés à l'échelle nationale. Et c'est donc un deuxième niveau d'intervention qui nous engage à être porte-voix de ces difficultés pour que des modifications profondes des politiques puissent voir le jour en France.
Au niveau de la législation sur les structures d'accueil des gens du voyage, on en est où aujourd'hui ?
Les mesures législatives datent de juillet 2000. Elles ont deux gros défauts. Premièrement, qu'elles mettent un focus sur la question du stationnement des caravanes plutôt que de l'élargir à la question de l'habitat, premier défaut. Le deuxième défaut, c'est qu'elles ont du mal à s'appliquer. Il faut savoir qu'à fin 2008, on avait 48% de taux de réalisation des aires d'accueil en France.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les communes à appliquer cette législation ?
Que chaque citoyen prenne une feuille, un crayon et qu'il écrive à son maire pour demander la réalisation des aires d'accueil là où elles doivent se faire.
Quel problème ça pose dans une commune où il n'y a pas d'aire d'accueil ?
Le premier problème, c'est que les gens du voyage qui veulent s'installer ne trouvent pas à s'installer et donc on les contraint de facto à être dans l'illégalité au regard du stationnement. Et le deuxième problème, c'est qu'en empêchant les gens du voyage de s'arrêter, on empêche tout simplement les populations de se rencontrer, on empêche les échanges et finalement on travaille à une cohabitation non harmonieuse entre les populations en France.
Suite aux ateliers, les participants étaient invités à se restaurer et à se rencontrer autour d'un buffet. L'occasion pour eux de découvrir la place des initiatives. Il s'agit d'un espace où des associations et des entreprises labellisées dans le cadre de cette année européenne de la lutte contre la pauvreté tiennent des stands. Elles y exposent leurs actions. Parmi elles, Adoma, c'est une société anonyme d'économie mixte dont l'État est l'actionnaire majoritaire. Elle propose des solutions de logement et d'hébergement aux personnes qui traversent des difficultés économiques. Ali vit actuellement dans une résidence Adoma, au Canet, dans les Alpes-Maritimes. Et s'il est présent aujourd'hui sur le séminaire, c'est pour une raison bien particulière.
Nous, ici, on a demandé des gens qui nous aident pour acheter une navette, parce qu'on habite une résidence qui a 230 personnes, qui est loin de la ville. Il était à peu près 5 km, 6 km à la ville. Et il y a la plupart des gens qui habitent, qui ont plus que 60 ans. Il y a 50 avec la canne. Nous, on a besoin d'une chose pour le déplacement, parce que le bus n'entre pas chez nous, on n'a pas de bus. Et on veut une petite navette qui va et vient entre la ville et la résidence.
Parce qu'à l'heure actuelle, c'est impossible pour vous d'aller à la ville.
Oui, et pour acheter une baguette, on descend 5 km aller, 5 km retour.
Vous le faites à pied ?
À pied, et en même plus, pas à pied, c'est une montée énorme. Les gens qui ont 70 ans, ils ne peuvent pas la monter. Et je veux bien, s'il y a des responsables qui m'écoutent, ils viennent, ils voient même la place comment.
Ali et les membres d'Adoma ont donc besoin d'une navette de transport pour les rapprocher du centre-ville et ainsi régler leurs problèmes d'isolement. Si vous souhaitez les aider, vous pouvez contacter l'agence Adoma de Cannes au 04 92 19 46 91. 04 92 19 46 91. Thank you. Ce séminaire sur l'accès et l'exercice des droits comprenait également une partie sur l'expression artistique autour de l'exclusion. Une exposition photographique intitulée « Papa, maman, la rue et moi » y était présentée. Pascal Bachelet en est le photographe, il nous parle de son travail.
C'est une exposition extraite d'un ouvrage réalisé avec Véronique Mougin. Donc, l'ouvrage s'intitule « Papa, maman, la rue et moi ». Et nous avons intitulé l'exposition également « Papa, maman, la rue et moi ». Et donc, comme je le disais, elle est extraite de ce livre. Et elle comporte, cette exposition, 48 tirages dans des formats un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire sur des grands panoramiques et qui reprennent les histoires de chacune des personnes que l'on a suivies pendant 2 ans.
Et qui sont ces personnes ?
Ce sont des personnes qui sont en situation de mal logement ou pas logées du tout. On a voulu, avec Véronique, mesurer, montrer l'impact du mal logement sur la vie de famille. Alors la vie de famille, c'est à la fois les enfants, les parents, les frères, les sœurs, et de montrer que quand on se retrouve à la rue, on n'est pas forcément sans famille, contrairement aux idées reçues et à ce que l'on croit habituellement.
Dans le cadre de cette année de européenne, vous participez à d'autres séminaires.
Cette exposition, en effet, a été labellisée Année européenne de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Et à ce titre, en fait, on est invité aujourd'hui à venir présenter l'exposition et à présenter l'ouvrage. Et on va prochainement à Lille être également. Alors le séminaire doit se tenir fin octobre, si mes souvenirs sont bons, quoi, venir présenter cette exposition comme on le fait aujourd'hui. Et on l'espère, et c'est en cours de réalisation, que cette exposition sera également présentée à Bruxelles.
D'accord, et donc vous m'avez dit que toutes les photos et tous les textes étaient dans un livre. Comment on peut se procurer ce livre ?
Alors on peut se procurer le livre en librairie, sur internet, dans toutes les bonnes librairies. C'est un livre qui est diffusé au niveau national, dans tous les réseaux de libraires.
D'accord. Voilà. Vous êtes le photographe ?
Alors moi je suis le photographe et l'éditeur. Pourquoi éditeur ? Parce que pour éditer un travail de ce style, nous n'avons pas eu d'autre solution que de créer une maison d'édition. Je dis nous parce que Véronique a rejoint ce projet et c'est ma maison d'édition qui existe depuis maintenant 2 ans et demi qui a décidé de miser sur ce sujet, qui est loin d'être un sujet facile, et pour réussir à vendre un ouvrage de ce type en librairie, c'est vraiment difficile. Donc il faut participer à des événements, organiser des tables rondes et compter sur le soutien de la presse pour réussir à en parler. On a vraiment réfléchi ce livre, cette exposition, tout ce travail pour le faire partager au plus grand nombre et au niveau national. Et aujourd'hui, heureusement, la réussite et le succès, je dirais, est là, de par la labellisation, de par le nombre d'exemplaires déjà vendus aujourd'hui d'ouvrages. C'est un ouvrage qu'on a voulu et un travail qu'on a voulu faire partager avec le plus grand nombre.
Les photographies de l'exposition « Papa, maman, la rue et moi » sont accompagnées de textes. C'est Véronique Mougin, journaliste indépendante, qui en est l'auteur. Elle nous parle de Marie-Madeleine, une immigrée camerounaise dont l'ouvrage nous restitue l'aventure.
Marie-Madeleine a 40 ans en fait, elle vient du Cameroun. Elle était très heureuse dans son pays, où elle avait un bon métier, sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, un appartement. Elle était heureuse à ceci près qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants vivants, c'est-à-dire elle a eu trois grossesses, 3 naissances, et ses 3 enfants sont décédés en bas âge pour des raisons que les médecins du Cameroun n'ont pas réussi à lui expliquer. Donc elle s'est à la fois fâchée avec Dieu, et puis elle a décidé au désespoir de venir en France, dit-elle, pour profiter de l'excellent système de soins de notre pays. Donc elle a vendu tous ses biens, elle a fait énormément de dettes en fait pour essayer d'avoir un visa et de se payer un aller simple pour Paris, et elle est venue ici pour tomber enceinte et pour mener à terme cette grossesse et avoir un enfant vivant. Et évidemment sa situation en France était des plus compliquées, puisque pas de papier, aucun revenu, beaucoup de dettes, enceinte, etc. Donc c'est une des personnes, justement ces migrantes sans papier, qui peuvent se retrouver sans logement. Et un des parcours possibles dans cette nébuleuse, qui est la nébuleuse des personnes sans logis, parce que ce qu'on a voulu montrer aussi avec Pascal Bachelet dans ce livre, c'est qu'il y a énormément de profils différents, énormément de gens au parcours différent qui peuvent se retrouver dans cette situation de ne pas avoir de logement personnel décent et durable. Donc Marie-Madeleine, une étrangère sans papier qui depuis a eu des papiers, est une des facettes de ce problème-là. Mais ce qui est aussi intéressant à constater, c'est que malgré les différences de de parcours, on peut retrouver des points communs en fait à toutes ces personnes, hein, que ce soit donc la migrante sans papier ou le français de souche qui a fait de la prison, ou alors la travailleuse pauvre qui n'arrive pas à se loger et qui est mère célibataire. Hein. Il y a une grande difficulté en fait à pouvoir conserver une vie de famille normale quand on n'a pas de logement à soi, c'est-à-dire quand on est logé par exemple dans des hôtels, dans des associations, dans des centres d'hébergement, ces personnes, ces mères et ces pères ont les plus grandes difficultés pour justement pouvoir rester à leurs propres yeux des parents compétents. Hein. Ils ont l'impression quand même d'une certaine déchéance qui est celle de ne pas réussir à mettre un toit sur la tête de leurs enfants. Puis il y a aussi des problèmes pratiques hein, qui se posent à eux. Quand on est très mal logé, on rechigne, on n'arrive plus en fait à recevoir sa famille, ses proches, ses parents, ses cousins, ses frères, ses sœurs. Donc l'isolement guette. Et puis quand on est logé, comme Marie-Madeleine, dans des centres d'hébergement, il y a aussi des problèmes pratiques en fait, qui se posent à la conservation d'un lien familial. Exemple, les visites sont interdites. On n'a pas le droit de faire la cuisine pour ses enfants, etc. Donc la vie de famille est rendue très compliquée, comme si le système d'hébergement n'avait pas encore pris en compte en fait le fait que de plus en plus de personnes en famille se retrouvaient sans logement, alors que de plus en plus les associations tirent la sonnette d'alarme en disant voilà, il y a 36% de mineurs dans les centres d'hébergement, il y a des familles qui se retrouvent sur le carreau de plus en plus fréquemment, etc. Il semblerait que voilà, le système d'aide et d'hébergement n'ait pas pris cette donnée familiale en compte, alors même que le fait de conserver une famille est, d'après beaucoup de chercheurs, un facteur clé de la réinsertion sociale, de l'accès à l'emploi, de l'accès au logement, etc.
Vous savez où elle en est aujourd'hui, Marie-Madeleine ?
Oui, et ben Marie-Madeleine donc, a eu un enfant qui se porte très très bien. Elle a un métier puisqu'elle est nounou, elle a donc un emploi. Elle est toujours logée en centre d'hébergement parce que, bah, comme beaucoup de personnes en France, il y a 1 200 000 personnes qui attendent un logement social, et Marie-Madeleine, qui est donc mère célibataire avec un petit salaire, voilà, devra attendre certainement un certain nombre d'années avant d'accéder au logement social. Et dans le logement privé, elle n'a évidemment aucune chance de se loger vu la petitesse de son salaire, son statut de mère célibataire et puis l'absence qu'elle a de famille et de garant pour pouvoir la soutenir dans cet accès au logement-là. Voilà, donc c'est une histoire qui finit bien puisqu'elle a réussi à devenir mère, c'était son objectif principal, mais qui montre aussi que même avec des papiers, puisqu'elle en a aujourd'hui un emploi, une famille, on a le plus grand mal à se caser dans le logement standard.
J'ai l'incendie, donc excuse la tête brûlée, une vagabonde en guise de calme, un outre-mer en clair du vrai. Du poison dans la tête, une enfance dans les rangs, libre dans la marche, trop sauvage pour entrer dans les rangs. Fugue incessante, foyer et centre de mère, famille d'accueil, HP, mon stylo en tremble de nerfs. L'enfant part en guerre, la même que les parents graines, qu'on considère comme une merde sur la place, en quarantaine, qu'on appelle cas social. Mais on est plein, donc on n'est plus des cas, bande de cons, on est plein. Vous savez quoi, même on craint plus des gains, ça missionne. Dur comme la rage que mon crâne isole, pour oublier qu'à 15 ans, il nous fait subir la camisole. Sur le système de ta peau, ok, la guerre sonne. Un signe de piétiner ces mots, n'appartiennent à personne. À tout cacher pour avoir la paix, je peux pas taper. Tu voulais qu'on la ferme, moi j'ai choisi de rapper. J'oublie pas qu'ils m'ont tout pris. T'as 14 ans pour des fugues, j'ai vu ma mort derrière les murs de l'oubli. Cellule blindée, délabrée, si tu résistes, t'as une piqûre dans le baba là où les promenades n'existent pas. Voudrais me voir canner, plus jamais on pourra me calmer. Rescapé de l'incendie avec cette sale envie de tout cramer. Car ils ont fait de ma vie des cendres, marqué à tout jamais. Ma rage ne pourra jamais redescendre. Un incendie, et il brûle encore dans mes veines, comme si j'abritais un volcan, ça va brûler tous mes rêves. Mon enfant jeté dans les flammes, calciné en cendres. J'respire la poussière, j'ai mal, mon cœur est en sang. J'aime l'incendie, regarde les brûlures de mon âme, marquée au fer rouge, comment faire, ma mémoire me condamne. Des douleurs intérieures, lancinantes, impérissables. Le groupe jour et nuit, comment soigner les guérissables. L'adolescence a esquivé leur barrage stressant. La rue, j'y dormais déjà à l'âge de 13 ans. Pisté par les flics, jour et nuit, la chasse est ouverte. Et quand la loi abuse de son pouvoir, cette pute est couverte. Les étoiles restent les seuls témoins de mes confidences. L'enfant seul que personne ne console quand les conflits dansent. La faim, le froid, la fatigue et les coups, un monde fait de mensonges. J'aide pas à faciliter les coups de force. Ils sont voulu mettre racisme, voler ma liberté. Pour ça, ils m'ont coupé les ailes à l'acide. Brûler mes rêves à l'acide, que mon âme crève à l'asile. Que leur glaive seule s'en ainsi, on reconnaît les traîtres à l'insigne. Sauvé par la zig, car elle a payé ma rançon. Des mots pour penser mes plaies, quand mon avenir était ensemble. Leur schéma ne sont qu'illusion, que la foi transcende. Au feu, ils taisent, c'est caché sur les enfants de sang. J'ai l'incendie, et il brûle encore dans mes veines. Comme si j'abritais un volcan, ça va brûler tous mes rêves. Mon enfant jeté dans les flammes, calciné en cendres. J'respire la poussière, j'ai mal, mon cœur est en sang. J'ai l'incendie, regarde les brûlures de mon âme, marquées au fer rouge, comment faire, ma mémoire me condamne. Des douleurs intérieures, lancinantes, impérissables. Le groupe, jour et nuit, comment soigner les guérissables. L'incendie, après les coups du sort, est devenu machinal. La voix dehors, la loi, pour une gosse qu'on a rendue marginale. Je ne foyer, place de foyer en foyer. Leur putain de machine veut me broyer, mais vas-y lâche-moi, j'ai mal, je rentre pas dans ton moule. Mon point de liberté est trop grand, dresser c'est sauvage. Ah bon, alors j'emmerde ton slogan, retiens bien tes ordres et ton système, je m'en tape. Esquiver tes lois est devenu un vulgaire, j'ai mental, ma revanche. L'épée, je la brandis avec toi, trop de cadence dans le cœur. Mes plaies ont grandi avec moi, c'est trop tard pour que je guérisse, c'est trop tard au point même de ne plus pouvoir expliquer les douleurs qui me malmènent. Alors je cours, mais mon passé me rattrape, je cours malgré les boulets. Ma mémoire veut ma bâche, je cours sans cesse et sans répit, sachant pertinemment que le poison est dans ma tête et qu'on ne peut se mettre son nom. Je cours.
Personne ne guérit de son enfance. Personne ne guérit de son enfance.
J'aime l'incendie, il brûle encore dans mes veines. Comme si j'abritais un volcan, ça lave à brûler tous mes rêves. Mon enfance jetée dans les flammes, calcinée en cendres. Je respire la poussière, j'ai mal, mon cœur est en sang. J'aime l'incendie, regarde les brûlures de mon âme. Marquée au fer rouge, comment faire, ma mémoire me condamne. Des douleurs intérieures impérissable, le groupe jour et nuit, comment soigner les guérissables.
Cette journée de rencontres et de discussions s'est terminée par un discours de Jean Soulage, président du Secours catholique et ambassadeur de cette année de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Mais avant cette conclusion, les participants ont pu assister à un des moments forts de la journée, une représentation d'une pièce de théâtre intitulée « L'errance est immobile ».
Notre regard les traverse sans les toucher.
Il s'agit d'une coproduction de la compagnie L'Envol et de l'association grenobloise Femmes SDF. Marie-Claire Vanneville est la présidente de cette association. C'est elle qui a écrit le texte de la pièce. Elle a voulu y rendre compte du quotidien de femmes vivant dans la rue.
Tous les plans. Comme mère, comme femme sur le plan sexuel. C'est normal ce qui m'arrive. Tout est de ma faute, tout. Et en plus, excusez-moi, je vous dérange avec tout ça.
F, 31 ans. Les femmes sont habitées par la honte. Elles ressentent tout le poids du regard extérieur.
Elles ont recours régulièrement à l'urgence, comme pour rappeler leur existence, ou l'existence de leur mal-être aux institutions et à la société. L'urgence est alors une stratégie pour attirer l'attention, mais pas sur l'essentiel. Derrière les demandes incessantes se cache une autre quête. Une quête affective constante, une quête désespérée et sans relâche d'amour inaccessible. Certaines femmes ne veulent pas se mettre en danger en laissant deviner leur précarité, et elles développent une grande ingéniosité pour maintenir leur apparence, leur habillement, leur propreté.
Quand j'étais à la rue, je me lavais à la fontaine du jardin de ville. L'eau était froide. Il y a plus de 10 ans, il y avait des WC à la gare bien utiles, mais ils ont été fermés à cause des toxicos. J'allais à McDo, dans les toilettes, il avait mon linge. Ensuite, ça a été interdit. C'est bien qu'il y ait point d'eau. Moi, j'avais toujours un peu de maquillage sur moi et une brosse à dents. Je me lavais le sexe tous les jours. Moi et mes copines, on n'aurait jamais cru qu'on dormait dehors.
C'est 38 ans, 12 ans d'errance.
Pour écrire le texte de la pièce, Marie-Claire Vanneville est allée à la rencontre des femmes vivant dans les rues de Grenoble et de Paris. Mais Saouda est l'une d'entre elles. Présente sur le séminaire, elle nous fait partager son expérience.
Pourtant, vous l'êtes une fille. Je me rejetais. J'étais nulle.
Je suis Messaouda, une ancienne SDF de la rue à Grenoble. J'ai vécu 5-6 mois dans la rue.
D'accord. Et donc maintenant, tu fais partie de l'association Femmes SDF ?
Je suis une convive, oui.
Une convive ?
Oui.
Et qu'est-ce que tu en penses de cette pièce de théâtre à laquelle on vient d'assister ?
Moi, je la trouve hyper chouette parce que depuis le début, la compagnie L'Envol, quand ils ont démarré à faire la pièce, pour arriver à ce spectacle, ils ont fait avec nous. Eux, ils nous faisaient voir les extraits et nous, on discutait avec eux et tout après pour dire ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait changer, ce qu'ils pouvaient laisser ou ce qu'ils pouvaient rajouter. Nous, on a participé, voilà.
Comment c'est arrivé que tu te retrouves dans la rue ?
Déjà, je suis partie de chez mes parents parce que quand on est chez les parents, on n'arrive jamais à rien avoir. Que quand je suis partie de chez mes parents, j'ai été hébergée au centre d'accueil municipal. Après, il y a eu les Algeco qu'on appelle Edelweiss à Grenoble. Mais après, le dispositif hivernal de Edelweiss, on ne trouve rien. C'est soit on fait des soins de psychiatrie, soit on n'a rien. Qu'on n'a pas tous besoin de soins de psychiatrie. Quand on demande d'avoir un logement, il faut toujours passer par un psychiatre ou un psychologue pour avoir un logement. Qu'on veut juste un logement où se poser et pouvoir travailler. Parce que c'est pas facile de travailler et de dormir dans la rue.
Et donc maintenant, tu en es où ?
Maintenant, je suis sortie. Déjà, moi, j'ai été hébergée depuis 2007 avec Oasis 38. C'est un CHRS qui est hyper différent par rapport à ceux de Marseille. Ils nous ont jamais proposé de faire des trucs de théâtre en tant que CHRS. Voilà.
Et ça te plaît de faire du théâtre, enfin de participer à cette pièce ?
C'est mieux, je préfère m'occuper comme ça que rien faire.
D'accord. Et pour toi, elle montre bien ce qui se passe pour une femme dans la rue ?
Oui, oui.
Parce qu'elle est faite à partir de témoignages ?
Oui.
D'accord.
Et les témoignages, c'est quand même tout ce qu'on a vécu dans la rue qui est hyper dur. Autant pour une femme, et je vais vous rajouter un truc, c'est pareil pour un homme.
C'est peut-être plus dur sur certains points pour une femme ?
Oui.
Lesquels ?
Quand déjà c'est pour se doucher, la plupart des associations avec les douches, c'est mixte. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est un endroit que pour les femmes. Donc voilà pourquoi il y a le local des femmes à Grenoble. C'est pas ouvert la nuit, mais c'est ouvert la journée pendant 3 jours. Et c'est très bien qu'on puisse faire ça avec la compagnie L'Envol.
Et j'ai cru comprendre que tu vendais le texte de la pièce.
Oui.
Donc c'est combien ?
3 euros le livre.
3 euros le livre ?
Oui.
Et tu le vends à la fin des représentations ?
Oui.
D'accord.
Parce que c'est mieux que d'abord ils voient la pièce et après ils l'achètent. Que s'ils l'achètent avant d'avoir vu la pièce, autant ça peut leur plaire et autant ça peut pas leur plaire. C'est mieux de le vendre après qu'ils aient vu le spectacle. Comme là ça va, ça marche bien.
Et ça, ouais, justement ça marche bien, t'en as vendu là ?
Quand même quelques-uns, oui.
D'accord.
Voilà.
Bon, mais tant mieux.
Oui. C'est pas fini, on va continuer dans toute la France.
Et justement, est-ce que pour toi, une journée comme aujourd'hui, ça peut faire bouger les choses ?
Oui. Si tout le monde s'y met, comme nous, ça peut avancer les choses. C'est pas que les travailleurs sociaux qui doivent y faire. C'est aussi à nous, en tant que SDF et tout, de se bouger avec eux. Et après, on aura plus de choses. On va remercier Nascapi, la toutou, qui fait partie du spectacle, qui est très adorable.
Les femmes redoutent les violences, les hommes violents, l'agression physique, d'où la volonté de se cacher, de se transformer. Elles se rendent invisibles. C'est leur manière de se protéger. Car une femme dans la rue a intérêt à être transparente.
Représentants politiques, institutionnels, associations, militants. Tous ont accepté de se réunir et de discuter ensemble lors de cette journée. Les rencontres ont parfois été houleuses, mouvementées. Des étincelles ont jailli, mais peut-il en être autrement lorsque deux mondes opposés tentent de se rapprocher ? Malgré tout, une série de préconisations a émergé de ces débats. Les participants à l'atelier culture sont tombés d'accord sur plusieurs points. Il faut développer les expressions des exclusions, reconnaître les intelligences des minorités et leur donner les moyens de les exprimer. Il faut aussi aider à faire travailler en commun les associations de solidarité, créer une synergie. Il faut encourager de nouvelles expérimentations qui suivent l'évolution de la société. Et, surtout, il faut rencontrer les gens du voyage, faciliter leur accès à l'enseignement et commencer à reconnaître ce que nous devons à la culture tzigane. Tout ceci n'est qu'une série de propositions, aucune application n'est encore prévue. Mais à en croire toutes les personnes qui ont accepté de parler dans ce reportage, l'espoir est là. Que ce soit Stéphane Lévesque, qui défend les tziganes, Ali, qui cherche une navette pour rompre l'isolement de sa résidence, Pascal Bachelet et Véronique Mougin, auteurs de l'exposition « Papa, Maman, la rue et moi », et Messaouda de l'association Femmes SDF, tous sont prêts à encore s'engager pour que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale continue après 2010. Ainsi se termine ce reportage. Vous pouvez contacter l'association Femmes SDF par mail, femmesdf@orange.fr. Le livre « Papa, Maman, la rue et moi » est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et vous pouvez consulter le site www.adoma.fr pour en savoir plus sur cette entreprise.